Laissez vos sens s'éveiller grâce à l'écoute alléchée. Un programme espiègle, léger, coquin, qui se veut aussi curieux et interrogateur. Laissez-nous vous emmener faire le tour des courbes et des brèches du désir et prendre la destination du plaisir. Cette programmation est évidemment réservée à un public mature. Embarquement imminent pour l'écoute alléchée, l'écoute alléchée sur RDOA 107.5.
Salut à vous qui écoutez l'écoute alléchée, votre émission mensuelle qui se passe sur RDOA. Je vous l'avais peut-être pas dit la dernière fois, mais évidemment, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le www.rdwa.fr. Alors, le mois dernier, on vous parlait d'érotisme, cette suggestion de la sexualité, cette approche plutôt poétique, sensuelle, une ode au respect des corps, à la douceur. On vous a lu des poèmes, un texte légèrement excitant. C'était délicat, voluptueux. Et ce soir, alors je sais ce qui va se passer dès que j'aurai prononcé le mot, ce fameux mot qui provoque le choc avec lequel vous n'êtes peut-être pas à l'aise et à cause duquel vous vous direz peut-être « Oh non, on tombe déjà dans le vulgaire au bout de la deuxième émission, on fait chier. J'avais pourtant tellement aimé leur première émission. » Eh bien, vous qui êtes sensible à la poésie, au charme des mots doux, je vous invite à rester avec nous car vous pourriez être surpris de ce qui va se dérouler ici. Pour les autres, adeptes des choses sans détour ni belle tournure, vous allez adorer. Ce soir donc, vous l'aurez peut-être déjà compris, on vous parle de...
pornographie.
Moi, c'est Paprika, et je suis en compagnie ce soir de mes petites épices adorées. Fleur de sel.
Salut.
Coriandre.
Bonsoir.
Curcuma.
Bonsoir.
Et sumac.
Coucou.
On vous a donc concocté ce soir une recette bien pimentée qui va vous échauffer et sûrement vous faire bouillir. Alors peut-être elle va vous faire bouillir de rage ou de dégoût, mais aussi et surtout... j'espère de plaisir. Pour l'instant, on va écouter un morceau d'un auteur, compositeur et interprète émérite, M. Georges Brassens, qui ose prononcer des mots bien crus pour l'époque, c'est-à-dire en 1958, avec le pornographe.
Autrefois quand j'étais marmot, j'avais la phobie des gros mots. Et si je pensais merde tout bas, je ne le disais pas. Mais aujourd'hui que mon gagne-pain, c'est de parler comme un turlupin. Je ne pense plus merde pardi, mais je le dis. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Afin d'amuser la galerie, je crache des gauloiseries, des pleines bouches de mots crus, tout à fait incongrus. Mais en me retrouvant seul sous mon toit, dans ma psyché je me montre au doigt et me crie va te faire homme incorrect, voire parler grec. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Tous les samedis je vais à confesse, m'accuser d'avoir parlé de fesses, et je promets faire mon marabout, de les mettre tabou. Mais craignant si je n'en parle plus, de finir à l'arme et du salut, je remets bientôt sur le tapis les fesses impies. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Ma femme est, soit dit en passant, d'un naturel concupiscent qui l'incite à se coucher nu sous le premier venu. Mais m'est-il permis, soyons sincères, d'en parler au café-concert sans dire qu'elle l'a suraigu le feu au cul. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. J'aurai sans doute du bonheur et peut-être la croix d'honneur à chanter avec décorum l'amour qui mène à Rome. Mais mon ange m'a dit turlututu, chanter l'amour t'es défendu s'il n'éclot pas sur le destin d'une putain. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Et quand j'entonne Guilleret, un patron de cabaret, une adorable bucolique, il est mélancolique et me dit la voix noyée de pleurs, s'il vous plaît de chanter les fleurs, qu'elles poussent au moins rue Blondel, dans un bordel. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Chaque soir avant le dîner, à mon balcon mettant le nez, je contemple les bonnes gens dans le soleil couchant. Mais me demandez pas de chanter ça si vous redoutez d'entendre ici que j'aime avoir de mon balcon passer les cons. Je suis le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson. Les bonnes âmes d'ici bas, compte ferme qu'à mon trépas, Satan va venir embrocher ce mormal embouché. Mais veuille le grand Manitou, pour qui le mot n'est rien du tout, admettre en sa Jérusalem à leur blême. Le pornographe du phonographe, le polisson de la chanson.
C'était Le pornographe de Georges Brassens sur RDIWA au 107.5. Alors, je rappelle que cette émission est à caractère sexuel et qu'elle ne doit pas se glisser dans toutes les oreilles. Pour revenir au thème, on va s'attarder donc ce soir sur la pornographie, comme on la vit par ici, chez nous, en Occident. En préparant cette émission, des questions, je m'en suis posé plein. La première, et je vous la fais pour la blague, c'est par quel côté aborder le sujet ? Il y en a eu d'autres, comme par exemple, je me suis demandé comment avoir du style quand on parle de pornographie, ce sujet qu'on dit si choquant et malséant. Ou comment aborder le sujet de manière positive, sans n'avoir que des propos qu'on pourrait qualifier de féministes. Au passage, je leur dis quand même merci d'être venus chambouler tous les processus de pouvoir masculin en place et de faire bouger les choses depuis plus de 50 ans, que ce soit dans l'art ou la littérature, ou même encore dans l'éducation. Bon, il y en a eu plein d'autres. Mais les principales qui restent et sur lesquelles on va s'attarder ce soir, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et en fait, on en est où en 2020 ? Surtout après cette période exceptionnelle de confinement. Qu'est-ce qui nous fait jouir aujourd'hui et sur quel support ? Comment peut-on s'y retrouver dans cette jungle du porno où règne un peu le chaos depuis ces quelques dernières années ? Et est-ce que ça craint pour nos gamins, toute cette génération ultra connectée et qui a accès à tout et n'importe quoi à n'importe comment ? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, parents ou tout autre adulte, pour qu'ils ne s'y perdent pas et qu'ils trouvent de bons repères ? Et surtout pour ne pas créer de mauvaises addictions. Alors évidemment, on n'est pas des travailleuses du sexe avec des histoires drôles ou insolites, ni des sexologues brisant le secret médical, non. Tout ce qui nous anime, nous, dans cette émission, c'est de questionner et de remettre en question. Mais comme il faut savoir aussi rester dans la légèreté et qu'on aime vous faire rêvasser, vous lécher l'oreille avec des mots aguichants, je vais commencer par vous lire un texte qui va vous mettre dans l'ambiance. Et ensuite, on tentera d'apporter quelques éléments de réponse à toutes ces questions. J'ai choisi ce soir de vous lire un texte tiré du livre de Julie Bray qui s'appelle « L'aventure, c'est l'aventure » qui est paru en 2006. La nouvelle que je vais vous lire s'intitule « Au rythme des Antilles ». Dès le jour de mon arrivée à Cuba, je me suis liée d'amitié avec un employé de l'hôtel, Roberto, qui avait à peu près mon âge. Et il ne fallut guère de temps pour qu'il me propose de me faire découvrir le pays. C'est alors qu'a commencé une semaine de bringue nocturne effrénée en sa compagnie et en compagnie de ses amis. Il y avait Karina, une superbe brune au corps sculptural, aux petits seins arrogants et brûlants, au tempérament de feu, vêtue comme une pin-up, en robe rose avec un bustier pailleté. Il y avait Miguel, son copain, puis Roberto et moi. Nous nous sommes tous entassés dans leur vieille Chevrolet dans l'intention de faire le tour de l'île. Après un repas bien arrosé au rhum, ils m'ont emmené visiter une vieille usine désaffectée qui est un peu leur repère préféré pour faire des fêtes, loin du regard chagrin et critique des révolutionnaires convaincus qui désapprouvent ce mode de vie qu'ils jugent trop décadent. L'endroit était désert et magnifique, tout à fait propice à abriter les fêtes les plus débridées. Déjà que nous étions bien réchauffés par le rhum et le voyage en voiture, nous avions beaucoup parlé de sexe. Enfin, parler, c'est beaucoup dire. Nous communiquions dans un anglais approximatif, mélangé d'espagnol et de quelques mots qu'ils connaissaient en français. Mais quand le vocabulaire nous faisait défaut, nous avions recours à une sorte de langage des signes que nous improvisions selon les besoins du moment et selon notre inspiration. Les garçons ne s'étaient pas embarrassés de formalités pour commencer à nous peloter partout, et nos esprits se sont vite embrasés. Le meilleur restait à venir, et l'on pouvait déceler dans nos regards brillants d'excitation les signes annonciateurs du plaisir. Karina me tenait par la taille, en me racontant à l'oreille que c'était ici qu'elle s'était fait dépuceler, il y a une douzaine d'années par Roberto, avec qui elle était sortie bien avant Miguel. Je sentais ses seins qui venaient se frotter contre mes bras, et délicatement j'ai tiré sur son bustier pour les découvrir. Elle m'a laissé faire, en souriant, puis a posé un baiser coquin à la commissure de mes lèvres. Je me sentais encouragée dans mon initiative, et je commençais à embrasser sa poitrine, à sucer ses tétons brûlants, durs et pointus. J'ai vite compris que, sans être lesbienne, c'était exactement ce qu'elle attendait de moi, et elle s'est mise à ronronner de plaisir. À son tour, elle m'a enlevé mon haut, et elle a tendrement pétri mes seins avec ses doigts longs et fins. En jouisseuse expérimentée, elle en égratignait les pointes avec ses ongles longs, et je gémissais déjà, tant cette délicate griffure était agréable. Je me moquais éperdument de ce que les garçons pouvaient penser. En plus, je devinais, rien qu'à les regarder, que nous les excitions. D'ailleurs, Miguel a sorti un appareil photo et a commencé à prendre quelques clichés de Karina et de moi, en train de nous bécoter, de nous caresser. Après quelques longues minutes, Roberto et Miguel nous ont rejointes et nous ont susurré à l'oreille des saloperies en espagnol. Leurs mains se sont glissées sous nos jupes et à travers nos petites culottes. Ils ont entrepris de nous caresser la chatte. Nous étions déjà bien ouvertes et humides, tant par la chaleur moite que par le plaisir que nous nous donnions déjà, Karina et moi. Presque au même moment, les deux garçons ont défait leurs pantalons pour sortir leur queue raide et gonflée. Roberto a retroussé ma jupe à damier sur mes hanches avant d'introduire sa main dans ma toison, sous mon slip, tandis que nous branlions vigoureusement les deux queues qui nous étaient offertes. Puis, encore une fois simultanément, comme dans un ballet bien réglé, les deux Cubains ont pris chacun une de nos jambes et l'ont posée sur leur épaule. J'ai senti ma vulve s'écarteler, mes nymphes se détacher l'une de l'autre, mon trou se creuser. Miguel et Roberto n'ont même pas eu besoin d'écarter nos culottes pour enfoncer leur queue dans nos deux vagins qui n'attendaient que cela. La position était un peu acrobatique, si bien que Karina et moi cherchions à garder l'équilibre en prenant appui sur l'aile de la voiture. Et cela ne nous empêchait pas de continuer à nous toucher le bout des seins. Puis, presque au même moment, Karina et moi avons joui, mêlant nos râles peu avant que les deux garçons n'explosent rageusement en nous. On aurait pu croire que cela allait en rester là, mais c'était sans compter sur la vigueur des garçons, de vrais machos, et sur nos talents conjugués de suceuse. Karina s'employa aussitôt à réveiller de sa langue la queue de son copain, alors que j'embouchais celle de Roberto, qui, à l'heure de sa troisième érection, n'avait quasiment pas débandé. Je l'ai plaqué à mon tour contre le coffre arrière et je lui ai grimpé dessus à quatre pattes pour m'empaler sur son dard. Je me faisais coulisser autour de son sexe tendu avec délice, lentement, pour en profiter plus longtemps. Karina m'a bientôt imité en s'enfonçant sur la queue de Miguel. Elle frottait ses seins contre son visage. Je me collais contre Karina et l'embrassais doucement. Cette fois, nous étions tous repus. Nous avons fini de nous déshabiller et nous sommes tous allés en courant nous baigner dans la mer, à quelques pas seulement de cette vieille usine désaffectée.
Tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot, je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais laminer l'écrevisse, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais m'amourer le bibelot, je me fais savourer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Merci Colette, c'était Colette Renard, Les Nuits d'une demoiselle. C'est un morceau qui date de 1963 et dans lequel elle dresse un catalogue d'expressions argotiques des rapports sexuels. Quelle expression vous avez le mieux aimé, les filles ?
Moi, j'ai bien aimé casse-noisette. Okay. C'est une vision qui m'a parlé.
Ok. Et toi, Curcuma ?
Moi, j'opterais par sucer la friandise. Ah, parce ouais. que ça évoque plus la douceur et le côté sucré et goûtu.
Ouais. Prendre du plaisir à le faire, quoi.
Voilà.
Mmh. Ok. Et toi, Soumak ?
Je me fais laminer les crevisses.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
Mais je ne sais pas, c'est pour ça que je l'aime bien. Et c'est pour les mots dans la bouche, laminer les crevisses.
Ah.
Mais j'aime bien aussi me faire reluire le berlingot.
Mmh. Ok. Moi, j'ai bien aimé béliner le joyau. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire, béliner ?
Non. Tu sais, toi, tu as cherché ?
Ouais, alors j'ai cherché.
C'est reluire, non ? Nettoyer un joyau, non ?
Eh ben non. En fait, béliner, c'est un terme qu'on utilise pour l'accouplement des ovins. Donc, rien à voir avec le côté précieux du joyau. Ah, et j'aime bien, justement, l'opposition des deux, en fait. Mmh. Voilà. Et pour revenir un peu sur les termes qui nous choquent dans le porno, alors peut-être qu'à la lecture du texte que je vous ai lu tout à l'heure, vous avez été un peu choquée. Par certains mots.
Ben moi, je trouve dommage qu'elle n'emploie que le mot « que », alors qu'il y a plein d'autres expressions. Ouais. C'est certainement fait exprès, d'ailleurs, vu que c'est une autrice. Ouais. Et voilà, il y a verge, pénis, et bien d'autres que je ne sais pas. J'étais choquée au bout d'un moment.
Ben quand on voit la chanson d'avant, tous les noms qu'elle trouve pour parler de son sexe féminin, il y en a forcément plein d'autres.
Ouais. Alors, effectivement, tout ça, c'était qu'une très longue introduction en guise de préliminaire pour vous chauffer un peu. Vous savez, cette chose qui ne se pratique pas dans le porno, les préliminaires. Et en gros, tout ça pour vous montrer qu'à partir d'une certaine époque, entre les années 50 et 60, les gens ont commencé à se lâcher, comme on l'a entendu dans les deux dernières chansons. Et c'était alors l'heure de la révolution sexuelle, la libération des sexes et surtout l'émancipation de la femme.
Mais finalement, quand est-ce que tout ça a commencé ?
Eh bien, il faut savoir qu'en fait, il y a toujours eu des représentations érotiques qui sont très anciennes, des gravures dans des grottes qui datent, par exemple, du paléolithique, donc en fait, depuis la préhistoire. Et ouais, on a toujours dépeint les attributs sexuels, que ce soit masculin ou féminin, ou mis en scène la sexualité. En fait, en 2005, apparemment, il y a en Allemagne, des archéologues qui ont rapporté qu'ils avaient trouvé ce qu'ils croient être une scène vieille de 7200 ans qui dépeignait une silhouette masculine se pliant au-dessus d'une silhouette féminine. Mmh. Et apparemment simulant des rapports sexuels. Bon, alors oui, à l'époque, on ne parlait pas de pornographie. Le terme n'existait pas. En fait, le terme, il est apparu dans l'Antiquité gréco-latine, c'est-à-dire au IIe siècle après Jésus-Christ. Ce terme-là, il désignait les artistes qui excellent dans l'art de représenter les choses de l'amour. C'était plutôt beau à l'époque. Et on les appelait donc des pornographes. Alors, la littérature pornographique antique, ça donne ceci.
Je hais les embrassements où l'un et l'autre ne se donnent pas. Je hais la femme qui se livre parce qu'elle doit se livrer et qui n'éprouve en rien, songe à son tricotage. Le plaisir qu'on m'accorde par devoir ne m'est pas agréable. Je ne veux pas de devoir chez une femme. Je veux entendre des paroles traduisant la joie qu'elle éprouve et me demandant d'aller moins vite. et de me retenir. J'aime avoir les yeux mourants d'une maîtresse qui se pâme et qui, abattue, ne veut plus de longtemps qu'on la touche.
Merci, Curcuma.
Avec plaisir.
Alors cet extrait, il nous vient d'Ovide, qui est tiré d'une œuvre intitulée « L'art d'aimer ». Dans cette œuvre, il donne des conseils aux hommes sur les moyens de conduire leur compagne jusqu'au plus vif des plaisirs. Non mais quand même, quand j'ai fait ces recherches, j'ai halluciné sur ce qui se faisait déjà à l'époque, il y a quand même plus de 2000 ans. Alors juste pour l'anecdote, j'ai aussi appris qu'Ovid a été banni de Rome en l'an 8. Essayez de deviner pourquoi.
On dit exhibition.
Il avait fait du
sexe. Il y a une petite partie d'exhibition.
Avec un animal.
Non. Non, il n'avait pas des pratiques sexuelles douteuses.
Il y a de l'exhibition.
C'est un peu exhibitionniste.
Il s'est montré tout nu au marché.
Ah, c'est pas lui qui l'a montré directement.
Il a montré sa femme.
Il a déshabillé quelqu'un.
Non.
Vas-y, balance.
Je vous le dis. En fait, c'est parce qu'il a osé mettre en péril la très, très grande institution du mariage en faisant la peinture complaisante et sensuelle des amours adultères. Et oui, c'est pas ouf non plus, mais pour l'époque...
Donc il a fait l'apologie, en fait,
c'est ça.
De l'adultère.
Voilà,
de cette manière.
Et ça n'a pas plu.
Okay.
Voilà. Ensuite, au Moyen-Âge, donc tout ce qui se passe entre le 5e et le 15e siècle, bah là, on ne va pas s'étaler sur le sujet, parce que, en fait, l'Église, elle prenait pas du tout ça.
Elle brûlait,
ouais. Même si l'art médiéval a été représenté dans des lieux saints, on a même vu des enluminures médiévales qui représentaient des scènes érotiques. Mais c'était pas du tout accessible, en fait. C'était très cher, fabriqué à la main. Bon, voilà. En tout état de cause, dans le monde chrétien, la représentation érotique, elle pâtit du lien qui est fait entre la sexualité et le péché originel. Et donc, ça tend à devenir tabou, voire disparaître. Donc là, même si l'art pornographique existe, on n'en parle plus. Allez hop, bannis le porno. Et donc, à partir de la Renaissance, au XVIe siècle, grâce aux peintures et aux sculptures, et aussi aux écritures de grands maîtres italiens, et bien là, la provocation envers l'Église, elle se met en place. C'est l'heure de la prohibition. Donc, les faits les plus marquants de l'époque, ça a été la collaboration de Pietro Aretino, un écrivain, et de Marc Antonio Raimondi, orfèvre et graveur, qui ont publié en 1524 un guide illustré des positions sexuelles sous forme de gravure, un genre de Kama Sutra version latine, nommé Immodi, connu aussi sous le nom des 16 plaisirs. Donc Pietro Aretino, je vous l'ai fait avec l'accent, nommé aussi l'Aretin, a ensuite créé un genre de littérature tout nouveau, avec une œuvre en deux volumes intitulée Ragionamenti, où en fait il donne la parole aux prostituées. C'est une sorte de manuel pour les filles de plaisir. On y trouve alors les mots foutre, queue, con et cul. Alors tout ça, c'était répréhensible évidemment. L'Aretin, il a été banni de sa ville natale et il a failli être assassiné par la suite. Raimondi, il a été emprisonné pour son œuvre. Et en gros, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, il y a tout de même pas mal d'artistes qui sont passés au bûcher pour avoir voulu présenter au grand public des contenus érotico-porno. Mais comme on le sait tous, la répression produit souvent l'effet qu'elle ne souhaite pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en pénalisant l'art pornographique, eh ben, les autorités, ils la rendent encore plus populaire. Et oui, interdit de vente et d'exposition, les mauvais livres et gravures maudites sont fabriqués à la hâte, sans art et débités à la sauvette. Bref, un véritable patrimoine culturel pornographique se construit. Finalement, c'est grâce aux philosophes du siècle des Lumières, donc à partir du XVIIIe siècle, que les ouvrages pornographiques libertins fleurissent. En fait, à cette époque, les obstacles à la liberté d'expression commencent doucement à être levés et c'est là qu'interviennent de grands changements. Donc on a des romans libertins qui voient le jour, avec des propos fortement érotiques et qui étaient tout à fait explicites. Donc s'il y a un nom à retenir de ce siècle, c'est Restif de la Bretonne. Alors ce gars-là, il était à la fois berger, typographe, écrivain, réformateur, philosophe, libertin, visionnaire. Et oui, tout ça à la fois. Eh bien, cet homme, en 1769, il réinvente le mot « pornographe » dans son sens étymologique, c'est-à-dire qu'il redéfinit ce que ça veut dire. Et donc, lui, il dit que ça désigne des écrits relatifs à la prostitution. Alors, si vous avez bien suivi, Vous vous souvenez qu'à la base, le terme désignait les artistes excellents dans l'art de représenter les choses de l'amour. Ça change un peu le rapport à la chose. Et dans cette même période, précédant la Révolution française, donc avant 1789, la pornographie était utilisée à des fins politiques. Marie-Antoinette, par exemple, elle avait des activités qui regroupaient des orgies et des activités lesbiennes. Et pendant et après la Révolution, les célèbres travaux du marquis de Sade ont été publiés. Ils ont souvent été accompagnés d'illustrations et ont constitué un support politique. Juste pour l'anecdote, j'ai appris que la France était, au XVIIIe siècle, le premier pays producteur et consommateur de pornographie. Voilà, j'avais juste envie de vous partager l'information.
Les Français.
En France toujours, et on passe au XIXe siècle, le terme prend un nouveau sens et désigne alors des écrits ou images obscènes. En Angleterre, ils ont même créé une section spéciale dans leur bibliothèque appelée « l'enfer ». Pour regrouper toutes ces œuvres. Alors, à partir de là, on assiste à une montée en puissance du fait pornographique. Le porno entre alors en érection. À la fin du 19e siècle, un marché de la pornographie se développe et devient commercial. Dans les années 1840, la photographie fait son apparition. Donc à cette époque, en fait, ça demandait de poser longtemps, de 3 à 15 minutes. Du coup, c'était impraticable pour les scènes pornographiques. Donc c'est, mais bon, à l'époque, ces photographies étaient extrêmement coûteuses et en fait, elles pouvaient atteindre l'équivalent du salaire d'une semaine. En gros, valait mieux payer une prostituée qu'une photo. En 1841, William Henry Fox Talbot, donc lui, ça a été le pionnier de la photographie, donc il a fait breveter un nouveau procédé pour prendre des photos et du coup, ça marchait mieux. Et là, il y a eu, à partir de ce moment-là, la possibilité de reproduire des photographies en masse et ça a contribué à la montée d'un nouveau type de marché. Il faut savoir que Paris était en fait le centre de commerce. En 1848, il y avait 13 studios de photographie et en 1860, on passe à plus de 400. En 1880, l'invention de l'impression par point de trame, utilisée aujourd'hui dans la presse magazine, a permis la reproduction à grande échelle de photographies. Et donc, c'est cette invention qui a conféré à la pornographie et à l'érotisme de prendre des directions nouvelles à l'aube du XXe siècle. Donc, on a eu les premiers magazines érotiques, comme Health and Efficiency, débuté en 1900 en Royaume-Uni. L'érotisme et la pornographie ont évolué au sein de magazines tels que Playboy, Penthouse ou Modern Man. L'autre progrès technologique qui a profondément modifié la perception et la représentation de l'érotisme est l'apparition du cinéma. Donc l'idée de projeter un film sur un écran devant un public est une invention européenne qui date de 1895 et c'est grâce à Auguste et Louis Lumière. Et bah, des films pornographiques, en fait, ils sont presque produits immédiatement quand le cinéma a été inventé. Eh oui.
Direct.
On avait déjà les images, donc bon, il n'y avait plus qu'à faire actionner tout ça. Donc, tous ces films, ils sont tombés dans l'illégalité à partir des années 40 et pendant de nombreuses années. Du coup, c'est des contenus clandestins. L'époque d'après-guerre a vu le développement stimuler la croissance d'un marché grand public. L'évolution des techniques de développement, comme le 8 mm ou le Super 8, ça a participé à répandre en fait, le film amateur. À partir de 1982, la plupart des films pornographiques deviennent bon marché et sont enregistrés sur des cassettes vidéo. Et du coup, ce changement, il a eu comme conséquence une possibilité de visualiser les films porno chez soi, hors des salles de cinéma. Ça a sonné la fin de l'âge des productions pornographiques à gros budget. Après, il y a eu les CD-ROM érotiques, qui ont été populaires vers la fin des années 80 et au début des années 90. À l'image de la révolution opérée par la cassette vidéo, Internet devint vite la source de pornographie préférée pour nombre de gens. Le terme pornographie est donc entré dans le langage, puis en est sorti, a changé de position, puis est re-rentré ensuite. Pour dire que tout l'art et la littérature pornographique ont donc fait pas mal de petits mouvements de va-et-vient tout au long de l'histoire. Une succession lancinante d'introductions, de retraits et de réintroductions, tout ça pour finalement venir poser à l'intérieur de nos corps et de nos esprits l'héritage de cette croix, non pas celle accrochée dans nos églises, mais bien celle du X, qui définit toute cette tendance, celle du porno et du mot sexe.
On est un peu tombés par hasard l'un sur l'autre, il est vrai. J'étais un peu sans me douter qu'au premier soir j'entendrais tant de douceur et de merveille. Depuis, jamais je monte mon réveil, car jamais n'arrive le sommeil quand tu me hurles à l'oreille. Bouffe-moi le cul, tu vois pas que j'en peux plus. Bouffe-moi la chatte, y'a que ça qui m'éclate. Bouffe-moi les seins, je vois que tu as faim. Et mets tout dans ta bouche pendant que je te... Touche-moi le cul, tu vois pas que j'en peux plus. Touche-moi la chatte, y'a que ça qui m'éclate. Touche-moi les seins, prends-les avec tes mains. Et mets tout dans ta bouche pendant que je te... Belle histoire.
Tout cru, tout cash, c'était Renaud Papillon Paravel avec Belle histoire d'amour. Vous êtes toujours sur RDIWA au 107.5. Et si vous nous rejoignez maintenant, sachez que vous êtes dans l'émission L'écoute alléchée et que ce contenu est à destination d'un public mature. On vous parle ce soir de porno.
Alors, maintenant, on va faire un bond dans le temps et on va parler de aujourd'hui. L'arrivée d'Internet, ça a permis un partage tellement plus rapide à l'échelle mondiale de tous les supports qui ont été créés. Donc peinture, photo, écrit, film et bien d'autres. Et aujourd'hui, selon les sources qu'on trouve, on sait qu'il y a entre un quart et un tiers de toutes les requêtes des moteurs de recherche qui sont en relation avec la pornographie, avec le sexe. Pendant le confinement, on a vu d'ailleurs qu'il y avait plusieurs plateformes, comme par exemple Pornhub, qui ont proposé gratuitement l'accès à leur version premium, qui d'habitude sont payantes. Qu'en 2020, on trouve de tout sur Internet. En matière de porno, il y a vraiment de quoi faire. Enfin, il y a de quoi faire dans un certain sens. On peut visionner plus que tout ce qu'on pourra un jour imaginer en termes de fantasmes qui vont au-delà de la vraie vie. Par contre, si on veut regarder du contenu qui montre des gens qui font l'amour, des gens qui ne répondent pas forcément aux standards de beauté, et tout en étant sûr que ces vidéos, ces films, ils soient faits dans des conditions réglo, on trouve un peu, mais pas encore beaucoup.
ce que j'aime, moi, dans le porno, en tout cas dans l'idée d'une représentation qui est explicite d'actes sexuels, c'est son potentiel à être une merveilleuse source de visualisation des fantasmes. Après, le problème, car oui, je pense que... Enfin, je suis convaincue qu'il s'agisse d'un problème, c'est que le porno mainstream, aujourd'hui, c'est un contenu qui est violent, qui dévalorise les femmes, les personnes dites racisées et, de manière générale, tout un tas d'autres individus. C'est un contenu qui est conçu par et pour les hommes cis, hétéros, et je rajouterais même des hommes blancs, en tout cas pour l'image de l'homme extra-viril des standards de la société. Le tout, c'est accessible gratuitement par n'importe qui en deux clics, et c'est trop peu souvent accompagné par de l'éducation à la sexualité. Sur Internet, on peut rapidement être confronté à des choses choquantes, dont on ne sait pas dans quelles conditions elles ont été faites. C'est important qu'à un moment donné, on nous ait expliqué en fait qu'il s'agit de cinéma, que ce n'est pas la réalité. Et c'est important de s'informer, parce qu'en fait, des fois, on va visionner des films, des vidéos sur Internet, et en fait, après coup, on apprend que les femmes ou les actrices qu'on a vues dedans, dans certaines productions, elles étaient en fait exploitées. Ces films et vidéos, ils montrent une sexualité qui est focalisée sur le génital et sur la performance. Le tout, c'est fait avec des scénarios qui sont plus que simples, on y reviendra. Comme pour les films de guerre ou de science-fiction, il y a des cascadeurs, il y a des effets spéciaux, beaucoup de montage, et que les acteurs et les actrices, des professionnels. Il y a un livre de Robin D'Angelo qui se nomme « Judy, Lola, Sophia et moi ». C'est une plongée dans l'univers de l'industrie du porno et c'est hyper intéressant. D'ailleurs, il y a un épisode du podcast Les couilles sur la table qui, dans lequel Robin D'Angelo...
Il parle de ça, ouais. Il s'intitule « Jackie, Michel et les autres ». Si vous voulez aller voir, on vous mettra le lien sur le podcast. Il est vraiment super intéressant.
Trop cool. Dans le porno, c'est quoi un rapport sexuel ? Alors là, je ne parle pas des vidéos amateurs. Je ne parle pas non plus des vidéos en 3D avec des aliens ou autres combattants de l'espace. Je parle plutôt là des grandes productions un peu de base. Le plus souvent, c'est le même schéma qui est suivi. Donc, il y a une femme qui a besoin d'aide pour réparer quelque chose ou qui est coincée dans une position plus qu'improbable.
On la connaît, l'histoire du plombier. Hein.
C'est ça, coincée dans une machine à laver, chose intense. Donc là, l'homme arrive sans même avoir besoin de parler et sans s'assurer du consentement, puisque c'est admis que les femmes sont demandeuses ou bien à disposition. Le sexe y commence. Bien rapidement, on arrive à la pénétration pénis-vagin. S'en suivent alors tout un tas de figures plus acrobatiques les unes que les autres qui doivent permettre de filmer dans le meilleur angle possible le pénis qui fourre le vagin. Puis c'est la sodomie, qui aujourd'hui c'est une pratique obligatoire dans le porno. Des fois la femme elle a un orgasme, si elle en a un ça doit être un truc de dingue avec les yeux qui roulent et tout le bazar. Et là attention, l'homme va éjaculer, marquant ainsi la fin du rapport sexuel. Le plus souvent il finit sur le visage de sa partenaire qui elle devra se délecter de la semence. Ce schéma imposé de ce qu'est un rapport sexuel, il est problématique s'il n'est pas remis en question. En fait, il instaure et même il fait rentrer dans nos têtes la culture des préliminaires. Les préliminaires qui précéderaient la pénétration pénis-vagin, qui du coup ne se suffiraient pas à eux-mêmes. Je propose qu'on bannisse le terme de préliminaire. Qu'un rapport sexuel, en fait, il faut garder en tête que c'est ce qu'on a envie que ce soit. Voilà, il n'y a pas de règle d'un rapport sexuel à part
Il n'y a pas un schéma consentant. De construction obligatoire. Quoi.
On commence comme on veut, on arrête comme on veut, quand on veut, on reprend pas, on fait ce qu'on veut en fait. On voit aussi dans le... Enfin d'ailleurs, on ne voit pas dans le porno les capotes. En fait, c'est très rare parce que en fait, les acteurs et les actrices, comme c'est des professionnels, que c'est leur métier, dans leur contrat, c'est établi qu'ils doivent se faire dépister. Pour des raisons de santé, en fait, tout simplement. Et du coup, il ne faut pas oublier que quand on ne connaît pas le statut de la personne d'en face, nous, on continue à se protéger, quoi, des IST.
Évidemment.
Ensuite, le vagin serait clairement un range-pénis dans le porno. Je vous invite d'ailleurs à vous intéresser au vocabulaire officiel qui nomme les différents éléments qui composent, en fait, la vulve et le vagin. Et ce serait bien de re-questionner tout ça. Si on regarde l'étymologie des termes officiels, il y a de quoi être un petit peu choqué. Le porno, il amène aussi une culture de la performance. Il faudrait que les hommes, en tout cas, déjà soient performants, soient en érection pendant des heures, soient capables de faire plein de choses différentes et incroyables, et que les femmes n'aient pas de douleur, soient mouillées tout le temps, etc., etc. Ça pose la question des pratiques les pratiques qui sont montrées dans le porno, ça peut inspirer. Ce n'est pas des pratiques qui sont obligatoires à suivre.
Ouais. Et il faut savoir aussi que Robin Angelo, il en parle là, dans cette interview dont on parlait tout à l'heure, qu'en fait, l'érection pendant des heures, ce n'est pas naturel. En fait, ils se font des petites picouses, les gars.
Ouais, il y a des cachets.
Il y a des cachetons, il y a du Viagra.
Ils se masturbent, ils reprennent.
Voilà, il y a des, oui, il y a surtout des pauses, ouais, effectivement.
On voit souvent dans le porno, il est souvent dit que les femmes regardent beaucoup de porno lesbien parce que ça correspondrait plus à leurs attentes, tout ça. Il y a aussi qu'il ne faut pas oublier que dans le porno mainstream, c'est quand même très centré sur l'homme. En tout cas, c'est le pénis en érection qui gère la situation et qui va faire que la chose se passe bien. Donc souvent, quand on regarde du porno lesbien, ça commence, c'est deux meufs ensemble et tout ça. Elles commencent à bien s'amuser et là, il y a un homme qui arrive. Et du coup, ben, c'est centré sur lui parce qu'il faut qu'il y ait un pénis dedans, quoi. Le porno, il pose beaucoup de questions aussi sur le physique. Donc, on voit beaucoup de chattes épilées en fait comme des enfants prépubères, des anus sans poil. Le poil, c'est représenté comme une extravagance. Sur les plateformes de porno, il y a des catégories femmes poilues, comme si c'était quelque chose de fantaisiste, en fait. Et du coup, aujourd'hui, ça crée des réels problèmes, puisque par exemple, aux États-Unis, on voit qu'il y a plein d'ados entre 14 et 16 ans qui vont se refaire faire leur sexe parce que, par exemple, au niveau de la vulve, les lèvres intérieures dépassent de leurs lèvres extérieures. Ce n'est pas des représentations qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est quand même assez grave. Hein.
Mmh, c'est clair.
Ça fait penser aussi le porno que l'éjaculation de l'homme marque la fin du rapport sexuel. Ça aussi, on peut le re-questionner, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure. Ça véhicule une image d'un homme qui est actif et dominateur et une femme qui serait passive et soumise. Je vous invite d'ailleurs à lire un super article de Maya Mazorette qui s'appelle « Sexualité pour en finir avec la norme actif-passif ». On mettra aussi le lien dans la description du podcast, c'est vraiment intéressant. Ensuite, en quelques points pour terminer rapidement, mais je pense que c'est important, c'est des choses après aux gens d'aller creuser selon ce qui vous intéresse le plus. C'est tout autour de la sexualisation du corps des femmes. On le voit, il y a pas mal de podcasts qui ont été faits là-dessus. J'ai pas de nom en tête là, mais qui explique que justement, dans les introductions de films pornographiques, on voit bien que les femmes, elles sont sexualisées tout de suite, même si elles sont habillées, en train de marcher dans la rue. Ça met aussi des choses en tête après, quand on se retrouve dans la rue.
Y a eu une petite dérive, en fait, qui s'est opérée au fil des années, où bah, justement, cette révolution de la femme qui a dit « moi, j'assume mon corps et je fais ce que je veux avec, et si j'ai envie de tourner des scènes nues et sexuelles, c'est OK. nos chers compagnons, les hommes, se sont réappropriés la chose. Et du coup, bah, ils ont fait que cette dérive, maintenant, elle amène à ça, à cette sexualisation de la femme, un peu la femme-objet. Et c'est ça qui est dérangeant, en fait, aujourd'hui dans le porno. Et je pense que c'est pas du tout là où elles avaient envie d'aller à la base, en fait.
Et du coup, ça fait bien lien avec les deux derniers points qui sont le consentement et la violence. Le consentement, on y reviendra sûrement dans une autre émission, une prochaine émission. Mais du coup, c'est sûr que si on considère que les femmes, c'est des objets, ben, en général, avant de servir d'un objet, on lui demande pas s'il a envie. Du coup, le consentement, on y reviendra. Et les violences, je disais tout à l'heure que le porno, c'est un contenu qui est violent souvent. Et ça met des images dans la tête et ça finit par avoir un impact sur les comportements de certaines personnes qui consomment du porno. Et donc voilà, et du coup, ce qui est dangereux, je pense, dans le porno, en fait, c'est s'il est utilisé comme un support d'éducation à la sexualité. Donc on va écouter un petit extrait donc, de Rocco Siffredi et Nikita Bellucci, chacun de leur côté, qui expriment en quelques minutes comment ils font un peu le lien entre leur vie familiale et leur vie professionnelle.
Ouais, moi je veux juste préciser que ce qui m'a choquée, en fait, dans ces deux interviews distinctes, qui sont assez récentes les deux. Il y a celle de Nikita Bellucci, elle date de 2018, et celle de Rocco de 2016. En fait, ce qui m'a choquée en les écoutant, c'est la position qu'ont chacun sur la vie de famille. Et vraiment, ça c'est intense, je vous laisse découvrir.
Bonjour, c'est Nikita Bellucci, j'ai 28 ans, je suis ancienne ardeuse, et je vais vous parler du harcèlement que je subis au quotidien dû à mon ancien métier.
C'est quoi aujourd'hui être une ancienne actrice porno? C'est quoi l'image qu'on traîne et qu'on a?
C'est... on va dire qu'il manque plus que le bûcher, quoi. On est complètement exclu de la société. Quand j'habitais en province, je sortais dans la rue, j'étais insultée. Je partais faire mes courses. Cinq mecs dans une bagnole qui me disaient « Nikita, je veux te faire ci, je veux te faire ça ». Voilà, donc c'est très très violent, je le dénonce. Et le problème, c'est que tout le monde s'en fout.
On a un peu l'impression qu'avec Balance ton porc, avec l'affaire Weinstein, le harcèlement a été condamné un peu partout. Sauf dans un secteur où ça semble accepté par tout le monde, c'est le porno. Vous, vous êtes harcelée aujourd'hui?
Oui, je suis harcelée tout le temps. Ça fait des années que je le dénonce. On nous harcèle sur les réseaux sociaux. Moi, je reçois des menaces de mort, des insultes. On me dit « je te souhaite d'avoir le cancer du sein ». Le problème, c'est que nous, on est amenés à se battre toute seule. Et il n'y a pas de soutien. Et psychologiquement, c'est ultra violent. Bon, il y en a un, celui-là, elle est plutôt pas mal. Grâce à lui, en fait, je suis restée 72 heures enfermée chez moi dans mon lit en train de pleurer. Personne ne voudra de toi en tant que femme. Imagine un peu, tu fais un gosse, ton gosse de 11 ans tombe sur ça. Grosse catin, t'as pas honte, ta seule vie, ça aurait été de te faire sodomiser de tes 18 ans à 30 ans pour X argent. T'es juste une pute, une salope, une grosse salope. Assume maintenant.
Quand vous lisez un message comme ça, comment on encaisse?
Ben, on n'encaisse pas, on pleure, quoi. Je pourrais passer outre, me dire, ouais, c'est pas grave, je suis plus forte que ça, mais c'est violent. Il y a une période où j'ai eu des idées noires parce que, ben, tellement d'insultes, tellement de haine que j'ai décidé de ne pas faire d'enfant. Parce que si demain je fais un enfant dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Déjà qu'avec moi, je reçois énormément de haine, qu'est-ce que ça va être pour mon enfant?
C'est super grave, en fait, d'être obligé de décider de ne pas avoir d'enfant à cause de ça.
Ouais, et c'était le seul rêve que j'avais, moi, dans ma vie, c'était celui-là, mais j'en avais pas d'autre.
Alors, pour faire suite à ça, on va écouter l'interview de Rocco qui présente une toute autre facette de la chose.
Rocco Siffredi est la star absolue du porno, c'est le hardeur du siècle. Voici ma balade parisienne avec Rocco Siffredi. Bonjour Rocco Siffredi.
Enchanté.
On est ravis de vous avoir dans Stupéfiant, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Vous parlez de sexe avec vos deux fils.
Mais bien sûr que moi je suis une personne qui peut parler de sexe. C'est
tout. Mais avec vos fils. Oui, je suis... Vous pouvez parler de sexe avec moi, avec n'importe qui, mais avec vos fils, c'est plus compliqué, non?
Oui, parce que je suis Rocco Siffredi. Donc moi je suis un peu encombrant pour eux. Mais j'ai une femme, j'ai une chance d'avoir une femme qui parle avec mes gosses tout le temps de ça. Eux, ils parlent avec moi d'une autre genre de sexualité. Ils viennent m'aider sur le plateau le plus grand. Ils viennent m'aider sur le plateau et donc ils voient et ils me donnent des conseils. Vous savez comment on parle de sexe, moi et mon fils, à travers la caméra.
Ça
il me dit, papa, je pense que quand tu fais ces prises de vue comme ça, tu devrais...
Attendez, excusez-moi, je vous coupe. Vos fils, ils regardent vos films?
Non, il est sous le plateau pendant que je tourne.
C'est pas vrai.
Mais oui, il m'aide. Et lui, il étudie à l'université, il étudie business. Et parfois, il vient parce qu'il a un grand amour pour les caméras, pour l'audio, le visuel. Donc il est
et vous, ça ne vous dérange pas? Vous avez votre fils dans la salle, pendant que vous faites vos petites affaires, ça vous dérange?
À moi, ça me dérange.
Mais votre fils,
Mais c'est mon fils. Mais mon fils, c'est un homme, il a un sexe, il va regarder bientôt et sûrement il a déjà vu des films porno.
Je pense que vous avez tous compris un peu le lien qu'on a voulu faire là. En gros, bah, voilà, on a une femme d'un côté qui s'empêche de faire des enfants parce qu'elle est actrice porno. Et de l'autre, on a un homme décomplexé, complètement décomplexé, qui a donc des enfants et qui les emmène sur ses tournages. Voilà, j'en dirai pas plus parce qu'on n'a pas envie de se positionner trop. Mais voilà, ça c'est une réalité qui existe et qu'il faut pointer du doigt. Je vous laisse juger vous-même de ce que vous avez envie d'en penser.
Il y a tout un genre de porno plus maison, entre guillemets, qui est en pleine expansion ces dernières années. C'est ce qu'on appelle le porno amateur. C'est un côté super parce que donc, c'est plus, on va pouvoir voir des gens qui nous ressemblent, faire des pratiques qu'on pratique nous. Pour ça, ça peut être sympa. Après, en fait, des fois, on ne sait pas trop du coup d'où viennent les vidéos. Il y a maintenant des amateurs qui sont certifiés, qui sont vérifiés et qui font même un contenu assez propre avec des belles caméras, tout ça, des belles images. Et en fait, on trouve beaucoup, notamment sur Pornhub, des vidéos en fait, que des gens mettent en ligne comme ça. On ne sait pas trop dans quelles conditions ça a été fait. Des fois, c'est des fins de soirée, des gens qui ont l'air sous ou des personnes très jeunes, des gens, on ne sait pas trop, des femmes, si elles savent déjà qu'elles sont filmées, sinon, si en plus elles sont consentantes. Pornhub, il a été accusé par de nombreuses personnes ces dernières années d'avoir mis en ligne en fait, des vidéos de leur viol. Et en fait, ça croise avec un problème qui est très grave, dont on commence à bien parler en ce moment. Enfin, en tout cas, plus parler en ce moment, que c'est le revenge porn. En fait, c'est notamment chez les jeunes, c'est très présent. Je parle jeunes, je parle de personnes qui sont mineures, où en fait, des personnes s'envoient sur diverses applications des photos dénudées, des vidéos un peu chaudes ou qui se filment pendant leur rapport sexuel. Et en fait, à un moment donné, lorsque le couple se sépare, on voit souvent pas mal de garçons qui partagent sur les réseaux sociaux en fait, des vidéos ou des photos que leur ont envoyées leurs copines, leurs ex-copines du coup. Voilà. Il y a des collectifs qui se sont mis en place, notamment pendant le confinement, on en a pas mal parlé, pour essayer de retrouver ces vidéos, les faire enlever des sites. Mais ça demande beaucoup de temps et d'investissement et c'est encore très tabou. Il y a notamment sur des applications comme Snapchat où l'idée c'est d'envoyer des photos, des vidéos, des messages qui sont supprimés une fois que la personne, une fois que le destinataire les a reçus. Mais c'est possible de faire des captures d'écran, etc. Donc c'est le genre de contenu qu'on retrouve de plus en plus sur des grandes plateformes de X célèbres. C'est un petit conseil qu'on peut faire passer s'il y a par exemple des jeunes qui nous écoutent ou des moins jeunes aussi. C'est qu'en fait ça peut être très chouette d'envoyer des photos à des gens, par exemple des photos un peu chaudes de nous, etc., à des gens qu'on connaît déjà, qu'en fait, quand on envoie quelque chose, il faut se demander si nous, on a vraiment envie de l'envoyer. On n'envoie pas des photos de son sexe ou de nous dénudés ou de rapports sexuels avec nous dedans, par exemple, si la personne d'en face ne nous l'a pas demandé ou en tout cas ne nous a pas dit explicitement « oui, je veux recevoir ce contenu-là ». Et qu'en fait, ça peut être pas mal aussi de se demander comment on le partage. Par exemple, pourquoi pas envoyer une photo un peu chaude de nous où on ne voit pas notre tête, où il n'y a pas de signe distinctif, on ne voit pas nos tatouages. Des choses où, en fait, au final, même si la vidéo ou la photo circule, on ne saura pas forcément que c'est nous. Et puis, en fin de relation avec quelqu'un, se dire, bon voilà, on prend 5 minutes, on efface respectivement de nos téléphones les photos dénudées qu'on a de l'autre, en fait. Toutes ces vidéos qui sont en libre accès, en fait, ça participe à ce qu'on appelle la culture du viol. La culture du viol, en fait, c'est des comportements et des attitudes au niveau de la société tout entière, en fait, qui normalisent, minimisent et banalisent le viol. Et le porno mainstream, il véhicule tout à fait cela. Voilà, on va réécouter un extrait de Rocco Siffredi. Ce coup-ci, il parle justement des jeunes et de l'accès au porno. Et je reviendrai dessus après.
Ouais, il y a aussi Nikita qui en parle.
Nikita aussi.
Ouais, ouais, ouais. Alors, on va écouter ça tout de suite.
Vous savez qu'est-ce que c'est le grand problème? C'est pas beaucoup de porno. Le problème c'est la mauvaise éducation qu'on donne à notre fils. C'est le fait de penser que notre fils il regarde pas de porno, que notre fils ils sont sublimes, qu'ils ont une super vie, ils ont aucun problème. C'est ça le grand problème. C'est qu'aujourd'hui dans la nouvelle génération, à 12 ans, 11 ans, 13 ans, tous les gamins, ils ont un smartphone. Et la pornographie, elle est devenue très extrême. Mais nous, on fait autre chose. On travaille pour l'imagination, la fantaisie des gens adultes.
Il y a des études hallucinantes qui sont sorties sur la consommation de porno chez les très jeunes. Par exemple, j'ai lu un chiffre, moi, que j'arrive même pas à croire. 50% des garçons de 10 ans ont déjà vu un film porno.
Il y en a même des plus petits, quoi.
Moins que 10 ans?
Mais bien sûr.
C'est pas possible.
Vous êtes un peu naïf, je trouve. C'est...
Non, mais moins de 10 ans, quand même.
Mais si, mais à partir du moment où t'en as marre d'entendre ton gosse brailler, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah tiens, je te donne le téléphone. Allez, joue au téléphone. Non, mais le gamin, il est pas bête, quoi. Il suffit qu'il aille sur Internet, quoi.
Enfin, moi, à 8 ans ou à 9 ans, j'avais pas l'idée d'aller sur les sites porno.
Mais oui, mais c'était pas la même génération. Moi, je me souviens, à 15 ans, pour trouver le premier film porno, fallait fouiller, quoi. Il n'y a pas assez de communication là-dessus. Et du coup, bah voilà, tout le monde, les petits, mélangent tout, quoi.
Et du coup, est-ce qu'il faudrait pas mettre au début des films « Ceci est une fiction
» Non, mais j'avais pensé.
Non, mais ça paraît bête, mais ceci n'est pas la vraie vie. C'est pas comme ça qu'on fait l'amour.
À force de le lire au début de la scène, ça va finir par rentrer.
Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gamins-là, ils aient pas accès aux films dans lesquels vous avez tourné, aux films qui vont être tournés dans les années à venir? Comment on contrôle ça?
Moi, j'avais pour idée de faire rentrer tout de suite son numéro de carte bleue ou partir dans l'extrême, mais ça se fera jamais parce que le droit à l'anonymat, numéro de carte d'identité. Mais personne ne le fera parce que ça va faire perdre énormément d'argent.
C'est-à-dire que les sites, ils savent pertinemment qu'il y a beaucoup de gens de moins de 18 ans et ils ne veulent pas perdre ce trafic-là, c'est ce que vous dites ?
Je pense.
Selon vous, c'est quoi l'âge idéal pour voir son premier porno ?
L'âge idéal, c'est à partir du moment où je pense que dans ta tête, tu arrives à savoir faire la différence entre un film et la réalité et que ça ne te perturbe pas.
Donc on voit bien là aussi ce qui est encore dit, c'est le problème aussi d'éducation qui est fait à côté, comme je disais tout à l'heure. Du coup, pour accompagner la consommation de porno, notamment chez les jeunes et les mineurs, car il ne faut pas se voiler la face, hein, ils l'ont dit et c'est des choses qui sont avérées, que les mineurs et les enfants très jeunes regardent du porno, ou en tout cas ils sont confrontés à un moment donné, que du coup c'est l'occasion, par exemple, maintenant c'est obligatoire depuis 2001 de faire de l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. C'est encore trop peu fait, mais par exemple c'est un thème qui peut y être abordé. Rappeler du coup que c'est du cinéma, que c'est pas la réalité, qu'on n'est pas obligé de faire tout pareil, qu'on peut s'en inspirer, mais que si on ne fait pas tout pareil, on n'a pas raté notre rapport sexuel pour autant. Que dire qu'un rapport sexuel, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un rapport sexuel, c'est ce qu'on a envie que ce soit, en fait, qu'on s'arrête quand on veut, même s'il n'y a pas eu d'orgasme, que ce n'est pas une finalité en soi. Ensuite, le porno, il véhicule plein d'images qui ont au final un impact néfaste, qui sont souvent des choses graves, en fait. Le porno, il fait vivre notamment des fantasmes colonisateurs qui ont un impact, en fait, sur nos comportements et sur nos manières de voir, car, en fait, ils participent à la culture raciste dans laquelle les gens ont été éduqués. Donc, un exemple, on voit souvent, qui en français, du coup, serait les grosses bites noires qu'on fait venir pour défoncer une femme blanche bourgeoise devant son mari. C'est des types de scénarios qu'on retrouve dans le porno et qui donc sont problématiques. Il y a un compte Instagram qui est très bien fait, qui parle pas que de porno, mais des fois qui en parle, qui parle de la société de manière générale pour se déconstruire là-dessus. C'est le compte Décolonisons-nous, qui souvent reprend d'ailleurs des articles de presse qui ont des discours problématiques, qui expliquent pourquoi, donc c'est vraiment intéressant. Dans les autres sujets qui peuvent être abordés en fait quand on parle de porno avec des jeunes, c'est de parler de la sodomie. C'est une pratique sexuelle qui s'est normalisée en fait ces dernières années, tellement on la voit dans les films et dans les vidéos porno. Et aujourd'hui, on constate qu'une actrice X en fait qui pratique pas la sodomie, voire la double sodomie, elle a peu de chances de réussir dans le porno, à moins qu'à la place elle propose une pratique autre qui sorte vraiment de l'ordinaire. Donc, c'est très intense.
Trash.
Et on montre pas forcément la préparation à ces pratiques-là. Et donc, c'est des pratiques que si on fait dans la vie comme ça, là, d'un coup, c'est intense, voire très dangereux. On peut vraiment se blesser gravement. Et donc, aujourd'hui, en fait, on constate, il y a des études qui sont faites là-dessus qui montrent qu'en fait, il y a bon nombre de jeunes. Quand je dis jeunes, là, je parle de personnes qui sont mineures, en fait, qui pratiquent la sodomie dès leur premier rapport sexuel, comme s'il fallait coller un schéma en fait, qui serait celui du vrai rapport sexuel. Et que si on n'a pas fait tout ce qui est montré dans le porno, on n'a pas réussi notre rapport sexuel. J'aime bien ce qu'elle dit, Nikita, là-dessus, sur la question des cartes bancaires. C'est sûr que c'est compliqué de mettre ça en place. Peut-être que ça se fera même jamais. Mais je pense que c'est vraiment important de réfléchir à des solutions. Et après aussi, le contenu dont je parle depuis tout à l'heure, c'est du contenu qui est disponible gratuitement sur Internet et très facile d'accès. On peut lire plein de témoignages et écouter plein de témoignages de gens aussi qui seraient prêts à payer pour du porno, mais qu'ils ne font pas parce qu'ils ne veulent pas rentrer leurs coordonnées bancaires.
Ouais, y a cette peur d'être suivi.
De savoir, souvent on dit...
Savoir qu'on regarde du porno, quoi.
Ouais, on se met en navigation privée, même si au final, ça ne change pas grand-chose, comme si ce serait un problème d'être surpris à regarder du porno.
Assumer que vous regardez du porno.
Donc moi, j'aimerais bien de terminer, en fait, en se demandant un petit peu tout ça, ce contenu violent, est-ce que c'est ça qu'on a envie de continuer de regarder ou pas? Ça peut être bien des fois. Est-ce que c'est ça qu'on se souhaite pour nos jolis yeux ? Mais que du coup, on a accessible plein de supports pour nous stimuler. Là, depuis tout à l'heure, on parle de vidéos, mais on a parlé avant de photographie, d'écrit, etc. Que du coup, il pourrait être intéressant de re-questionner lesquels on utilise. Tout comme on peut faire attention en fait, aux aliments qu'on ingère. On peut faire attention au contenu érotique et porno qu'on consomme, parce qu'en fait, c'est de la nourriture visuelle et elle a un impact fort sur notre cerveau et sur notre appréhension du réel. On a vu ces dernières années l'apparition comme d'un porno qu'on dit souvent plus éthique, qu'on a appelé longtemps porno féministe, maintenant on dit plutôt porno éthique, où on va retrouver une diversité des corps, des genres, souvent plus de bienveillance, de la sensualité, des rapports sexuels qui sont empreints de consentement et d'écoute. Donc c'est des vidéos où les rapports sexuels qui vont être montrés, ils collent plus avec la sexualité qu'on peut vivre nous dans la vie de tous les jours. Notamment, on mettra des... pas forcément des liens, en tout cas des noms des de noms, réalisatrices, ouais. C'est souvent des réalisatrices, dans la description là, du podcast. Donc par exemple, il y a Erika Lust, Olympe dont on parlait tout à l'heure, Lucy Blush, et il y en a plein d'autres dont on mettra les noms dans la description. Souvent, c'est des contenus qui vont être payants. Comme je disais juste avant, c'est le cinéma, ben, ça coûte des sous en fait. C'est comme si on allait au cinéma ou qu'on loue un film sur Internet. Donc c'est une question, celle de l'argent, elle, je pense qu'elle est importante de se la poser parce qu'on est habitué à ne pas payer pour notre consommation de porno. Et est-ce qu'on serait prêt à mettre un petit peu d'argent pour avoir accès à un contenu qui est plus humain, qui est fait dans des conditions plus respectueuses? Voilà, on peut se poser la question. Et on trouve aussi pas mal, je voulais parler en deux mots, de porno audio, comme sur Vox, qui est plutôt destiné aux vulves, mais pas que, sur Cox. Donc c'est V-O-X-X-X. Et COXXX ou encore CTRL X. Donc, n'hésitez pas à fouiller sur Internet, on trouve des audios vraiment super pour tous les goûts. Des fois, je me dis que c'est important quand même de, pourquoi pas, des fois, prendre le temps de se masturber tranquillement aussi. Se masturber, c'est se faire l'amour à soi. Et si on veut regarder des vidéos pour se stimuler, pourquoi pas regarder des jolies choses. Quand on fait l'amour avec quelqu'un, il y a plein de détails qui sont sublimes et qu'on ne retrouve pas forcément dans le porno mainstream. Si on veut retrouver cela dans nos supports vidéo masturbatoires, il faut sortir des grandes plateformes de porn. Et je terminerai avec un petit rappel. C'est comme tout à l'heure, envoyer des photos dénudées, il faut le consentement de la personne d'en face. Quand on montre des images, photos ou des vidéos, enfin du contenu porno, en fait, il faut le consentement de la personne. Souvent, trop souvent, on se fait tourner des vidéos un peu choquantes pour rigoler. Mais en fait, montrer du contenu porno sans consentement, c'est non.
Il y a quand même des règles de base à respecter. Respectons-nous. T'en es où, Coriandre ?
On est bon.
On est bon.
Ah, okay. Une petite musique.
On écoute...
On va écouter une musique de Fauve qui nous a été conseillée par un ami.
Regarde pas les affiches, fais pas gaffe aux signaux. Mets bien tes mains sur tes oreilles quand t'entends rire les narvalos sauvagement. Ceux qui portent leurs membres à bout de bras et qui disent qu'un cul ça s'attrape ou ça n'est pas. De quoi t'as peur? Alors dis-leur que ton machin est contrarié. Que parfois quand une fille te parle tu sens tes billes se rétracter. Depuis que cartonne au box-office la grande idée selon laquelle la compassion s'est dépassée. Dis-leur que tu te sens seul et que tu sais plus quoi faire pour trouver un peu de chaleur humaine. Aller au bois pour que quelqu'un accepte enfin de toucher ton zob. Tripoter la lycéenne, porter des robes. Te trémousser en talons hauts comme un gogo. Puis arpenter les ruelles sombres en secouant ta clochette. C'est un peu à cause de tout ça si tous les soirs c'est la même histoire. Métro, apéro, l'exo, club et films porno à l'ancienne. Sur lesquels tu t'entraînes rageusement. Même si ça fait longtemps que ça t'amuse plus vraiment. Mais il faut pas que tu désespères, perds pas espoir. Promis juré qu'on la vivra, notre putain de belle histoire. Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand. Qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard. Imagine-toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar. Quand tout à coup tu croises un regard qui te perfore de part en part. Imagine-toi, t'es là, ça te tombe dessus sans crier gare. Un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi. Un truc comme ça.
Bonsoir.
Bonsoir.
De se croiser ici. Bonsoir.
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 Je voudrais partager tes nuits.
Tu connaîtras les nuits fauves, je te le promets. Elle sera tigre en embuscade quand tu viens de glisser sous ses draps, tandis que toi tu feras scintiller tes canines lorsqu'elle enlève le bas. Elle t'offrira des feulements dans sa voix lorsqu'elle reprend son souffle, qui s'échappe dans la cour pour aller faire gauler la lune. Des coups de bélier invoqués comme un miracle, qui veulent dire si tu t'arrêtes, je meurs. Toutes ces choses qui te la feront raidir, rien qu'à te souvenir pour le million d'années à venir. Malheureusement, tout ce qu'on t'offre pour l'instant, c'est des chattes épilées et des seins en plastique en vidéo. C'est terrifiant. Tout le monde veut la même chose, même les travelots rêvent du prince charmant. Et pourtant, on passe notre temps à se mettre des coups de cutter dans les paumes. À trop mentir, à force de dire par pitié, range la guimauve, écarte les jambes, je t'en supplie, me parle pas. Laisse-moi seulement kiffer mon va-et-vient de tolard et m'endormir direct moins de 3 minutes plus tard. À force de faire tout ça, on croyait quoi? On se meurtrit, on fait l'amour, comment on s'essuie? Quel gaspillage. Mais il faut pas que tu désespères, perds pas espoir. Promis juré qu'on la vivra, notre putain de belle histoire. Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand. Sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard. Imagine-toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar. Quand tout à coup tu croises un regard qui te perfore de part en part. Imagine-toi, t'es là, ça te tombe dessus sans crier gare. Un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi. Offre-moi des ce soir ta peau brunée, tes lèvres mauves, tes seins terrains, tes cheveux noirs, et qu'on se noie dans les nuits fauves. En échange de tout ça, je t'offre ce dont je dispose, mon corps, mon âme, prends tout tout de suite, et qu'on se noie dans les nuits fauves. Bien sûr qu'on sait qu'ici c'est pas Hollywood, sauf que dernière nouvelle, le fantasme c'est encore gratuit. Ouais. C'est pour ça qu'on se réfugie dans nos pensées, qu'on ferme les yeux très fort jusqu'à voir des couleurs en attendant que ça passe. Y'a que comme ça qu'on peut rêver de caresses au réveil et de regards qui veulent dire t'inquiète plus, t'inquiète plus. De coups de poing dans le cœur, de 40e qui rugissent dans nos poumons, à faire sauter les côtes, de torrents dans nos veines, d'une épaule pour pleurer sans honte et d'une oreille pour tout dire, toujours quoi qu'il arrive. De serments argentés prononcés face au rayon vert. Est-ce que tu veux m'épouser, vivre et mourir à mes côtés? On rêve de réapprendre à respirer, que la médiocrité qui nous accable aille se faire enfler au Pakistan. On attend désespérément celui ou celle qui apaisera d'un doigt nos muscles noués et nos encéphales en sous-régime. On attend désespérément celui ou celle qui fera battre notre cœur plus grand. C'est pour ça qu'il faut pas que tu désespères, perds pas espoir. Promis juré qu'on la vivra notre putain de belle histoire. Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand. Qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard. Imagine-toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar, quand tout à coup tu croises un regard qui perd fort de part en part. Imagine-toi, t'es là, ça tombe dessus sans crier gare. Un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi, un truc comme ça.
Je voudrais qu'on remonte l'escalier en courant, catapulte tous nos vêtements. Bonsoir, que tu me fasses l'amour jusqu'à l'aube pendant 2000. Que le soir, au soleil couchant, on se fasse des larmes. Je voudrais partager tes nuits. J'ai tant besoin qu'on se noie dans la nuit froide. J'ai tant besoin qu'on se noie. J'ai tant besoin qu'on se noie.
C'était Fauve avec Les Nuits Fauves sur RDIWA au 107.5. Vous êtes toujours à l'écoute de l'écoute alléchée avec un contenu plutôt pornographique, même carrément pornographique ce soir. Donc à ne pas laisser dans toutes les petites oreilles, soyez avertis. Donc on va enchaîner avec Curcuma. Curcuma qui est notre enquêtrice de choc. Je te laisse la parole.
Pour cette émission, j'ai interviewé trois personnes que l'on gardera anonymes pour connaître leur rapport avec la pornographie. Je les remercie de leur participation et de leur sincérité. Je vous laisse les écouter.
Est-ce que tu pourrais me donner ton âge déjà pour commencer ?
40 ans.
Ok.
30 ans.
J'approche les 40 ans. Mmh. Enfin, je suis à 38.
Est-ce que tu as déjà regardé des films pornographiques ?
Oui.
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 Est-ce que tu te rappelles le premier que tu as vu, à quel âge t'avais à peu près ?
Je devais avoir 12-13 ans, mais c'était pas encore vraiment du porno. C'était à l'époque les films d'M6 plutôt érotiques,
ouais,
que porno. Okay. On ne voyait pas les détails.
Ouais. Et du coup, le premier porno vraiment où t'allais...
Vraiment Canal Plus.
Ouais.
Ça devait pas être beaucoup plus tard en même temps.
Okay.
Ça, on va dire que tout ça, ouais, ça a dû être entre 12 et 13, tout ça.
Alors, le premier, c'était un accident. Un membre de ma famille avait enregistré sur un dessin animé un film pornographique enregistré sur Canal Plus, quoi.
Okay.
Et donc, du coup, je devais avoir à peu près 7 ans.
Ah ouais?
Ouais. Non, c'était chaud. Et du coup, je n'ai même pas su ce que j'avais vraiment regardé. Mmh. Mais je sais que c'était ça parce que je me souviens quand même des images. Quoi.
Okay.
Mais par contre, vraiment, le premier film pornographique que j'ai regardé avec l'intention de le regarder, c'était au collège avec une copine. On s'était tapé un délire justement en essayant de regarder des films qu'il y avait à la maison. Et on avait 12-13 ans, quoi.
Okay. Ah ouais, ça,
nous
c'est tôt,
ça commençait à nous intéresser, en fait. Mmh. Et comme on ne pouvait pas en parler du tout, c'était beaucoup trop jeune pour en discuter, on s'est dit, on va regarder et puis on verra ce que ça fait. Et en fait, ça nous a fait bidonner.
Okay.
Ah ouais, ça nous a fait rire, en fait. On ne savait même pas, pour nous, c'était débile. Enfin, on savait même pas ce que...
Vous n'aviez peut-être pas encore envie, vraiment, des vraies envies sexuelles.
Non, du tout, en fait. On trouvait ça juste comme les enfants, quand les parents s'embrassent, un peu dégoûtant. Ouais. C'est plus comme ça, okay, en fait, on l'a vu la première fois. Donc, voilà.
Quand j'avais 14 ans, je crois, je me suis lancé un défi. C'était de m'acheter un ordinateur. Mmh. Donc, j'ai travaillé pour ça. Donc à partir de là, j'ai eu accès à Internet, mais c'était vraiment une vraie galère. Non, l'histoire sur le film pornographique, c'est qu'il y avait... sur Internet, c'était pas l'objet. Parce que tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que le porno, il se retrouve sur Internet. Mais à l'époque, même avec un ordi, c'était pas là. Et donc, dans la maison de la presse de Di,
oui,
qui s'appelait à l'époque JMAC, JMAC Presse, et bien là-bas...
Vous achetez des revues ?
Non, non. Ah. On volait. Alors, je peux le dire de manière très tranquille, parce qu'on est tombé pour ça.
Vous étiez enfant ?
On était ados, mmh, et on a volé...
des films tout... ou des...
Non,
des
on volait des... en fait, on volait des petits DVD, ouais, de cul.
Ouais, je vois.
C'était même pas des DVD, c'était des CD-ROM à l'époque. Ouais. Des CD-ROM de cul interactifs. Et on les volait... C'est-à-dire que tu venais avec ton petit couteau ou ton cutter. On ne volait pas le magazine. On découpait le plastique et on prenait juste le disque.
Donc avant d'avoir fait l'amour, t'as regardé des films pornographiques ?
Ah bah oui, bien sûr, okay, à 13 ans, 14 ans.
Est-ce que ça t'a mis une sorte de pression ou est-ce que ça t'a donné des idées ?
Et alors, ni l'une ni l'autre, ça m'a plutôt vendu du rêve.
Ah ouais ?
Okay. Ouais. Ça avait un côté absolument inaccessible. Moi, je devrais dire d'ailleurs que le porno a été pour moi vraiment quelque chose que peut-être encore aujourd'hui, je pourrais considérer comme n'étant pas atteignable. D'abord, c'est des acteurs, donc il y a les performeurs, mmh, une vraie performance sur la durée, sur tout, mmh, un tas de trucs, mais il y a aussi du clip. Mmh. Donc du coup, c'est monté de telle manière à ce que finalement, la scène, elle prenne un certain temps à se dérouler. Mmh.
Mais est-ce
c'est...
que du coup, quand tu as eu ton premier rapport sexuel, tu t'es fié à ces films porno ?
Ben pas du tout.
Ok.
En vrai, pas du tout. C'est pas du tout la première chose qui m'est venue en tête. Et tout s'est fait d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus, mmh, innocente que ce qui peut se passer dans, mmh, le porno.
Du coup, tu n'y as même pas pensé, quoi.
Ben non, non, non. Chouette. C'était plutôt chouette, mmh, c'était beau. Si tu connais un truc complètement édulcoré de la chose, tu te rends compte que c'est facile d'être fluide. Il n'y a plus de crainte.
Est-ce que ça a influencé ta sexualité ?
Non, je ne crois pas. Okay. Je crois pas. Je crois pas. Là où le porno m'a influencé, c'est que j'adore la sodomie. Et ça, c'est vraiment porno.
Et du coup, est-ce que tu as l'impression, quand tu étais jeune, quand tu as regardé tes premiers films, est-ce que tu as l'impression que ça a influencé ta sexualité ?
Tout à fait.
Tes premiers rapports, du coup ?
Ouais, on va dire que surtout, bah, comme c'était sur une période célibataire où j'ai eu pas mal de relations, on va dire, et qui n'étaient pas dans l'affect, mais que dans le physique, du coup, oui, je me suis rendu compte bien plus tard que ça avait pas mal affecté ma sexualité, mon rapport à ça avec la femme. Bah parce que c'est quand même très tourné sur un peu brutalité et pas mal de domination masculine, il faut le dire. Donc c'est vrai qu'on... Bah, j'ai eu une époque où, oui, je... N'ayant pas de sentiment pour la personne et étant un peu formaté, en regardant un peu régulièrement, j'ai eu cette période et c'est en rentrant dans une vraie relation que ce rapport au sexe a un peu changé.
Okay. Ouais.
Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je dirais que ça a été plutôt négatif et en même temps, dans le temps, ça permet aussi, de quand on prend une distance par rapport à ça, de se dire que c'est que malgré tout des choses qui existent. Mmh. Et que bah, chacun a sa propre sexualité, quoi. Mmh. Chacun a ses propres goûts, et voilà.
Okay. Est-ce que, du coup, quand tu étais jeune, les premiers rapports, est-ce que pour toi, c'était la réalité, ces scènes pornographiques, ou tu sentais que c'était quand même pas tout à fait ce qui se passait dans la réalité entre personnes?
Bah, en fait, avant que vraiment ça m'affecte, j'étais très longtemps en relation, donc ça m'affectait pas.
Ouais.
J'ai pas eu l'impression que ça m'affectait à ce moment-là. C'était vraiment une fois que je les ai, que ça a été un peu une forme d'addiction pendant un temps, on peut presque le dire. Quoi.
Okay.
Et à cette période-là, oui, ça m'a affecté. Mais quand j'étais en relation, généralement, bah, dès qu'il y avait des sentiments qui rentraient en jeu, comme t'es plus dans l'écoute de l'autre, tu passes au-dessus, quoi. T'as envie de faire plaisir à l'autre comme t'as envie de te faire plaisir, du coup tu essayes de nouvelles choses et ça plaît, ça peut plaire ou pas.
Okay.
Donc du coup, ouais, si t'as regardé pas tant que ça, t'as pas l'impression que ça a influencé ta sexualité du coup?
Alors, pas par mon biais. Ouais. Par contre, pour mes partenaires, ouais. Ouais. Beaucoup.
Ouais.
J'en ai certains où même j'avais des fois l'impression qu'ils s'y croyaient, quoi.
Ouais. Mmh.
C'était où genre, ah ouais, mais ça, mais si, c'est sûr, tu vas aimer, je l'ai vu. Ah et, ouais, là, et là, je pouvais,
une référence, quoi,
et là je pouvais être sûre que j'allais passer un mauvais moment, quoi.
Okay. Ouais.
Parce que c'était ni fait ni à faire, quoi. C'était genre, comme, je sais pas, j'avais l'impression qu'il avait vu une recette de cuisine.
Ouais.
Et c'était jamais bon, quoi. Ça, pour moi, en fait, si tu te bases sur ça, pour faire quelque chose, ça peut pas être bon, puisque le sexe doit toujours être instinctif, en fait.
Ouais.
Donc s'il est prémédité, s'il est calculé,
ouais,
je trouve que ça peut jamais être... C'est comme ce truc de, ah oui, mais alors si tu mets le doigt à telle distance, et nana, ça va, okay, faire ça.
Ouais.
Mais non, en fait,
ouais,
non,
c'est ressenti, quoi.
C'est ça, c'est sûr, même. Et ouais, non, je trouve... Enfin, voilà, ça, à moi, ça m'a rien apporté, si ce n'est des désagréments du fait que, voilà, mes partenaires ont pu penser que c'était une bonne idée, quoi. Voilà. J'ai eu quelqu'un à un moment donné avec qui j'avais été, qui en regardait beaucoup.
Okay.
Et du coup, on en regardait ensemble.
Ouais.
Ça ne me plaisait pas plus que ça, mais ça faisait partie intégrante de notre relation, enfin, de couple.
Ouais. Et du coup, ça faisait partie de votre sexualité, ou c'était quelque chose que vous...
Ah non,
ouais,
ça faisait partie de notre sexualité. Moi j'en avais pas le besoin, mais lui, oui. Du coup, je suivais le rythme.
Et du coup, c'est genre, vous le mettiez en fond
en
et vous
faisiez
la main,
ouais,
dessus.
Ouais,
okay.
Ouais, c'est ça.
Vous regardiez un peu les images.
Ouais, moi je trouvais ça plus dérangeant parce que ça me distrayait, quoi.
Ouais.
Mais par contre, plus tard, j'ai découvert les hentai.
Ok.
C'est de la pornographie, mais genre des mangas.
Ah ouais, ok. Ouais.
Et bon, des fois c'est un peu borderline, mais voilà, après c'est un délire. Mais c'est plus sur du fantasme, en fait.
Mmh.
C'est, du coup, je crois qu'en fait je n'accroche pas avec la pornographie, avec des... vraiment des corps. Je la trouve pas charnelle du tout, en fait. Je la trouve presque je sais pas comment dire, comme de la viande, quoi. Je sais pas, ça m'inspire pas d'envie, en fait.
Ouais.
Je trouve ça presque
comme un peu inhumain, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, pour moi, c'est presque comme deux objets qui se rentreraient dedans, ou quoi. Je n'en retire aucun désir. Alors que par contre, les mangas, c'est suffisamment fantasmé, imaginé, enfin que...
Okay.
Voilà, il y a de la place pour l'imagination et pour la projection, en fait.
Oui, t'en regardes régulièrement, du coup?
Ça dépend des moments, mais, mais ouais, enfin, j'en regarde, peut-être, je sais pas, je dirais peut-être un par semaine, quelque chose comme ça.
Ouais. Et tu regardes ça avec ton conjoint?
Non, toute seule. Une fois qu'il dort. Non, parce qu'en plus, je pense pas du tout que ce soit le genre de choses qui lui plaise. Et puis ça, moi, en fait, donc du coup, j'ai pas, voilà, ça regarde que moi. J'ai pas envie de partager ça avec lui, en fait.
Ouais, c'est ton truc, quoi.
Voilà, c'est ça.
Les vidéos ou des photos, est-ce que toi, tu prends des photos nues ou des vidéos avec ton partenaire ou des choses comme ça, ou ça fait pas du tout partie de ta vie?
Le partenaire que j'ai depuis 13 ans, pas du tout.
Okay.
Ça fait pas du tout partie des choses qui nous inspirent. Ouais. En revanche, voilà, j'ai eu toujours cette personne avec qui j'ai été un moment, et qui, à un moment donné, me demandait de prendre des photos nues, des choses comme ça.
De toi?
De moi. Et ça me mettait extrêmement mal à l'aise, parce que cette idée d'avoir un cliché de moi comme ça... Alors, je dis pas, il y en a certaines qui étaient jolies, j'aimais bien, où finalement, on voyait pas grand-chose, c'est presque artistique, quoi.
Ouais.
Mais par contre, généralement, c'était surtout dégradant, quoi.
Ouais, t'avais cette sensation-là.
Ouais, je trouvais ça plutôt dégradant. Et puis l'idée d'avoir qui est ces images comme ça, à portée de main, prêtes à diffuser ou quoi, j'ai... Non. Après, voilà, c'est parce que c'était une relation jeune. Je dis pas, peut-être que si la relation que j'ai maintenant, mon compagnon me parlait de ça, du fait qu'il y ait la confiance, je me dirais pas, enfin, je serais pas en train de me dire, ah, mais non, il a des images de moi qu'il peut diffuser, du coup, puisque là, j'ai confiance. Donc, mais c'est pas quelque chose qui nous intéresse, donc on le fait pas.
Okay.
Voilà.
Tu dis que tu regardes toujours régulièrement, du coup, c'est quelque chose qui... c'est quand tu peux avoir peut-être un manque sexuel, ou c'est quelque chose qui... Ça te fait du bien dans toute occasion?
Non, c'est sexuel.
Ok.
Non, sinon, parlons directement pour la masturbation. Je trouve que l'imaginaire est beaucoup plus excitant.
Ok, ouais.
Mais oui, ça m'arrive quand même à certains moments d'excitation.
Ok. Et c'est des choses plutôt que tu fais seule, ou ça t'est arrivé de, par exemple, de regarder des films pornographiques avec des petites copines?
Non, seule. Avec des petites copines, ça m'est arrivé... Pas avec beaucoup, mais ça m'est arrivé, oui.
Ok. est-ce que tu as déjà tourné des vidéos ou pris des photos est-ce que ça fait partie de ta vie, ça, les images?
Non. Je l'ai déjà fait avec certaines copines, mais c'était juste des petits fantasmes. Ça pouvait nous arriver, mais c'était pas quelque chose de régulier. Ouais. C'était sur un moment, une idée, une envie. Mais c'était pas un besoin ou une régularité.
Ok. Bon, je crois que j'ai terminé. Je te remercie.
Mais je t'en prie.
Du coup, je suis aussi allée recueillir des infos dans un bureau de tabac à Die pour connaître un peu la consommation des magazines pornographiques. Après observation des rayons, j'ai pu voir qu'il existait environ 7 magazines différents. Donc, je vais vous donner quelques noms. Les plus vendus sont Union et Marc Dorcel, qui font aussi qui font des magazines et des vidéos, et aussi de la lingerie. Voilà. Il y a aussi le magazine Tabou qui répertorie des lettres hautes. On trouve son équivalent sur Internet comme Dialogue 69. J'ai pu voir aussi qu'il existait une BD nommée Blandis, une BD sans dessus ni dessous. Et j'ai pu voir que le magazine qui était si connu, Playboy, n'était plus dans les kiosques. Voilà. Ensuite, c'était différentes vidéos. Dans ce tabac, ils m'ont dit qu'il y avait toujours des ventes de magazines porno, mais très peu. Eux, ils avaient surtout la visite de deux hommes d'une soixantaine d'années et un homme d'une cinquantaine d'années qui viennent de manière régulière, environ une fois par semaine. Donc ces personnes prennent des vidéos et des magazines. Ils n'ont pas l'air de ressentir de gêne à l'achat, mais cachent quand même leurs magazines en quittant le tabac. Aucune femme n'achète de revues porno. Par contre, les magazines comme Cosette, Flo ont beaucoup de succès, ainsi que le magazine Les Inrocks, qui fait un dossier une fois par an sur la sexualité. Les personnes interrogées m'ont aussi dit que récemment, du Poppers avait été commandé à la demande de clients masculins. Voilà, je les remercie beaucoup, les personnes qui ont bien voulu répondre à mes questions.
Merci, Curcuma. D'ailleurs, il y a un super article dans Les Inrocks qui parle de Olympe qui est réalisatrice de films. Je vous invite à lire cet article. En fait, elle a fait un film qui est disponible sur Canal+ jusqu'en septembre, je crois, avec Brigitte Lahaie. Donc Brigitte Lahaie, qui est une ancienne du porno. Et cet article est super intéressant. Donc je vous invite à le lire vivement.
Démon qui m'habite, t'astique le cul. Le mastic des huelles, un carreau qui tient plus. Comme tes seins usés par mes mains maléfiques, qui au fil des années ont ruiné ta plastique. Le démon qui m'habite, un curieux dessin. Le dessin de ma bite qui hérisse tes seins. Et qui m'aurait malgré à sceller la routine, qui à côté de toi me fait lever matin. Qui m'habite, t'a aimé tellement vite qu'il ne sait plus ton nom. Oh, le démon qui m'habite a préféré la fuite. Je demande pardon. Le démon qui m'habite a un poil dans la main. Il ne se soucie guère de quoi est fait demain. A bien y regarder, il est un peu léger. Et dès qu'il voit l'amour, il fuit comme un gamin. Le démon qui m'habite a fini son mastic. Le chaos tout usé lui est tombé dessus. Comme il s'y attendait pas, il s'est cassé la pipe. Cette pipe admirable qu'il ne reverra plus. Ah, le démon qui m'habite a aimé tellement vite qu'il ne sait plus ton nom. Oh, le démon qui m'habite a préféré la fuite. Je demande pardon. Le démon qui m'habite a viré sa cutie. Il ne s'usera plus sur tes mille broutilles, sur tes seins fatigués par les années qui passent. Il s'en va de ce pas voir le routier d'en face. Le démon qui m'habite s'est fait rouler dessus. À présent réalise tout ce qu'il a perdu. Et ses seins qui pendouillent et ses fesses bien molles n'ont pas réussi à le changer en folle. Et ses fesses bien molles et ses seins qui pendouillent n'ont pas réussi à le couvrir de rouille. Ah, le démon qui m'habite t'a aimé tellement vite qu'il est devenu vieux. m'habite te souhaite bonne suite et te fait ses adieux.
C'était les Oufris Maracas avec Le Démon. Vous êtes toujours sur RDWA au 107.5 dans l'émission L'écoute alléchée, avec ce soir des contenus à caractère pornographique.
Coucou, c'est Soumak. Et moi, j'aimerais vous faire un aveu. Je n'ai pratiquement pas d'expérience de la pornographie. Et j'aimerais parler de cela, car on considère presque que c'est la norme de pratiquer le visionnage de ce genre de film. Mais à chaque fois que j'ai essayé, franchement, il n'y a eu aucun plaisir. Et que de la gêne, voire de la honte, souvent de la colère et de l'incompréhension. Après, j'étais jeune. J'avoue, j'ai pas vraiment réessayé. Je me croyais anormale, coincée, et c'est peut-être le cas. Mais en préparant cette émission, j'ai compris aussi qu'il y avait de vraies raisons honorables à ne pas être attirée par ça. J'ai trouvé un article sur le site mademoiselle.com intitulé « Des jeunes hommes qui n'aiment pas le porno expliquent pourquoi ». On croit que le porno, c'est par les mecs, pour les mecs, et ça marche sur tous les mecs. Eh bien, apparemment, non. Alors, que dit cet article ? Des hommes disent ne pas aimer le porno, premièrement parce que certains préfèrent leur imagination, beaucoup plus créative, inventive et infinie, et elle n'est pas réduite par les angles possibles de prise de vue. D'autres ne veulent pas voir de pénis ou de corps masculin, cela ne les excite pas. D'autres ont de l'empathie, car pour eux, il est difficile de dire si les scènes sont consenties. Et souvent, la culture de domination féminine sous-jacente, véhiculée par certains films, les amène à ces interrogations qui viennent vite entraver le plaisir. Certains n'aiment pas le porno parce qu'il est source de complexes. Alors j'ai trouvé ça très marrant en fait. Ils disent ne pas se reconnaître face aux acteurs souvent musclés, bronzés, ultra virils, avec un pénis énorme. Difficile pour eux de ne pas se comparer. Alors ils se sentent mal et ils préfèrent ne pas regarder. Et enfin, d'autres disent ne pas aimer le porno parce qu'il est irréaliste. L'acte sexuel est loin de la réalité et véhicule de fausses idées. Et malheureusement, notre société manque d'éducation sexuelle. Et trop souvent, le seul exemple de sexe qu'ont les jeunes, c'est le X. Kevin nous confie, amateur de porno, croyant bien faire pendant l'acte sexuel avec sa copine, a voulu tester un move que les actrices de X semblaient apprécier. Et il est donc, sans prévenir, passé directement du vagin à l'anus. Sa partenaire, au lieu de gémir de plaisir, a crié de douleur et même saigné. Il s'en est voulu à mort, bien sûr, et n'a plus jamais regardé de porno. Et oui, le porno est irréaliste, parfois. Pour ma part, à chaque tentative, j'ai même trouvé cela comique, du point de vue des scénarios, donc loin aussi de la voie du plaisir et de la jouissance. Ou sinon, à voir, peut-être on pourrait créer un vrai style, du porn humoristique et jouir de rire. Bon, je dérive, mais à creuser cependant. Le porno, c'est pas la vraie vie, c'est pas souvent poétique et joli joli. Oui, je suis complètement subjective. Je ne sais pas si j'apprécierais plus le porno éthique. En fait, à voir. Mince, en fait, maintenant, il va falloir que j'aille vérifier.
fait quoi ce soir, les filles ?
Mais je crois quand même que je préfère mon imagination, ou à la limite de l'érotique plutôt que de l'explicite. Enfin, je vous en dirai plus une prochaine fois. Et pour finir, il y a des hommes qui ne regardent plus de porno, car il leur a fait du mal. Car ils sont devenus addicts, et cela a pris trop de place dans leur vie. Cela a engendré une distorsion de leur perception de la sexualité. Cela m'a amené à voir les femmes comme des objets, à vouloir jouir le plus vite possible et à vouloir m'enfoncer et pilonner, dit un témoin. Donc, en gros, cela amène certains à passer à côté du meilleur, l'intime, le partage, la vraie jouissance, quoi. Et cette dérive nous ramène encore à la création du porno éthique, plus sensuel, qui, dans ces cas, deviennent une solution, une libération et une guérison vers l'authentique. Voilà. Je dois avouer que cet article m'a fait du bien. J'ai compris que ce n'était pas anormal d'avoir rejeté cela. Ouf, j'étais peut-être pas si coincée. Juste sensible. Mais bon, je terminerai cette discussion avec mon psy. Donc oui, ne pas aimer le porno, c'est pas grave et ce n'est pas anormal. On n'apprécie pas tous les mêmes stimuli sexuels. Et entre réel goût personnel ou influence de la société, il est difficile de s'y retrouver. Il est bon d'expérimenter pour se connaître et accepter ses goûts et fantasmes. C'est tout. Donc, toi, addict du porno trash ou toi, petite fleur bleue asexuée, je vous souhaite de continuer votre odyssée dans ce monde de sensations, d'éveil et de tentations. Et je vous souhaite aussi de vous accepter tel que vous êtes dans le respect de l'autre. Je terminerai avec ces mots. Et si la sexualité commençait avec la caresse du vent sur votre peau?
Merci Soumak. Pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on écoute deux extraits vidéo. Il y en a un, c'est un extrait de Carmina, réalisatrice de films et ancienne actrice porno. Ça dure 12 secondes. En fait, c'est juste une petite phrase qu'elle dit qui est quand même assez chouette et je pense qu'il faut absolument retenir. Je vous la fais écouter tout de suite.
De la même façon qu'on ne va pas apprendre à conduire en regardant tous les Fast and Furious, on ne peut pas apprendre la sexualité en regardant de la pornographie.
Voilà, ça pour moi c'est hyper important de le retenir. Et on a aussi des propos d'un sexologue qui s'appelle Mathieu Tison et qui a créé un podcast assez récemment en fait que vous pouvez trouver sur le blog sexologue.com. Et ce podcast-là, il date du 3 juillet 2020 où il parle du porno. En fait, il dit que dans le porno, il y a trois inconvénients et un avantage. Et je vais vous passer juste l'extrait où il parle de l'avantage. Je vous laisse écouter.
C'est de la science-fiction, c'est exactement ça. En fait, il faut regarder le porno comme si c'était un peu un Star Wars ou un Star Trek du cul, quoi. Grosso modo, ça n'existe pas, on le sait, mais ça fait du bien de nous projeter dedans.
Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain avec l'écoute alléchée qui parlera de consentement et première fois. Première fois au pluriel, parce qu'il y en a plein des premières fois dans la vie. On a perdu à peu près la moitié des épices.
Elles sont toutes parties en cours de route.
Ouais, peut-être regarder du porno, qui sait. Coriandre et moi, on vous souhaite une belle nuit et on vous dit au mois prochain. À bientôt.
À bientôt.
Bye bye.